voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Patrick Chauvel. Ce soir, photographier pour raconter leur combat.
Bonsoir Patrick Chauvel.
Bonsoir.
Hier, on a parlé ensemble de la première guerre importante, en tout cas le moment où vous avez commencé à être journaliste, la guerre du Vietnam. On est au début des années 70, c'est une décennie très importante, le monde est très instable, et pendant cette décennie, vous parcourez le monde à tel point que un jour, quand quelqu'un demandera à votre fille Angélique « Que fait ton papa ?», elle répondra « Le bureau de mon papa, c'est la guerre ». Comment on vit quand on passe jusqu'à plus de 300 jours par an sur des terrains de conflit?
Bah, on vit très bien, hein, parce qu'on subit pas le quotidien, donc déjà... Les impôts m'ont cherché pendant des années. Hein. Ils me trouvaient pas. Non, je plaisante. C'est une connerie que je viens de dire. C'est pas vrai. J'ai payé.
Les percepteurs qui nous écoutent. Les percepteurs.
Il y a plutôt moins de guerre aujourd'hui, en fait. Même les gens ont l'impression qu'il y en a plus parce qu'on en parle plus facilement, que l'information va beaucoup plus vite et que les guerres débordent sur notre société, puisqu'il y a les attentats, etc. Mais oui, quand je vivais au Vietnam. Je suis allé au Mozambique, je suis parti pour 15 jours, je suis resté un an. Et puis je faisais beaucoup d'aller-retour avec l'Irlande aussi. C'était toute l'époque de Bobby Sands, Bloody Friday, Bloody Sunday. Mais ma base, c'était Saïgon. Enfin, à Paris, j'habitais chez mon grand-père, et j'avais toujours ma piole chez mon grand-père. Donc quand je revenais, quelquefois je revenais, d'ailleurs une fois je suis revenu avec mon copain Apache.
Sky,
qui était un métis indien américain, mais plus d'1m90, avec les cheveux longs, et qui dormait par terre dans ma chambre à soir de saulerie. On avait échoué sur le radeau de la Méduse, qui est une moquette épaisse dans le 16e. Et mon grand-père se lève, et il aimait bien me réveiller tôt. Et en fait, moi j'étais parti aux toilettes, il est tombé sur l'Indien, et je l'ai croisé en sortant des toilettes et il m'a dit « Patrick, il y a une énorme femme dans ta chambre. » Et je lui ai dit « c'est un Apache. » Et j'ai adoré. Et il a absolument pas tiqué. Il m'a dit « Et ton Apache, il prend du thé ou du café ?» On sentait le diplomate.
Le flegme anglais.
Voilà, le diplomate. Et donc c'était une période effectivement où je bougeais beaucoup, mais je restais longtemps.
C'est important ça de pas... passer juste, il faut rester un peu de temps sur les...
D'abord, c'est ce que j'aime. Hein. À la fin, je parlais couramment portugais. Je vois encore les soldats portugais avec qui j'étais et leurs enfants. Je pars au Portugal dans une semaine et je vais retrouver toute la bande que j'ai pas revue, certains depuis 72. Mais il y en a un que je vois tout le temps, J. Astas, et son fils était là hier soir à dîner. Donc c'est l'histoire nous colle à la peau et on la vit. Il n'y avait pas les portables en plus à l'époque. Je me rappelle, je venais de me marier, je suis parti un an. Je l'ai eu une fois au téléphone.
Alors ça, c'est quand même l'un des sacrifices majeurs, c'est le sacrifice d'une vie amoureuse, d'une vie familiale, on va dire, entre guillemets, normale.
Oui, c'est dur pour celui qui reste. On a une vie, enfin, on va dire qu'on a plusieurs vies amoureuses.
Comme les chats.
Voilà. Elle était là quand je suis rentré, on est resté encore ensemble, mais elle avait une passion. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une passion. Moi, j'avais la mienne, elle avait la sienne, elle était danseuse à l'Opéra de Paris. Donc, de toute façon, elle aussi, elle partait 3 mois, quelquefois, en tournée. Elle a fini avec Béjart, dans le spectacle qui s'appelait Les Vainqueurs. C'était une très belle danseuse, elle s'appelait Anne-Marie Job, qui est magnifique. Je l'ai amenée en reportage, un jour, avec Arnaud Hamelin, qui était réalisateur et caméraman, ouais. Parce qu'en fait, ça s'est trouvé comme ça. Au départ, c'est une plaisanterie. On avait rejoint les rebelles à Kassala, la frontière du Soudan. Et les types avaient dit, on attend des camions qui vont arriver dans une semaine. Et lui, il avait un procès à Paris. Donc il m'a dit, je rentre à Paris. Et je lui ai dit, ramène nos copines. Regarde, c'est magnifique, il y a des dunes magnifiques. Les types étaient très très beaux. C'était en chameau avec des cartouchères rouges. Enfin, et ce con, il est revenu avec. Et il n'y a jamais eu de camion. On a fait 900 km à pied en 21 jours.
900 km à pied en 21 jours, avec les amis, les bonnes amies qui arrivent.
Plus les attaques, les blessés, l'aviation qui attaque. Enfin, c'était dément. Et en fait, la danseuse a tenu mieux que tout le monde. parce que son corps était
endurant,
en pleine forme. Mmh. Bon, après, elles en parlent encore. Hein.
Vous enfin, aussi, vous en parlez encore de l'Érythrée. Je crois que c'est parmi les images que vous avez gardées en tête et qui vous reviennent souvent, c'est l'image d'un soldat, d'un rebelle qui meurt sous vos yeux, qui est enterré et qui vous regarde.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas trimballer les ses graves, parce qu'on est 80 bonhommes avec des terrains découverts énormes. Il fait 50 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. Donc le jour, on est à 5 sous l'ombre d'un bandana et on tourne avec le soleil autour d'un épineux et on marche la nuit. Et le type, il avait été trépané par un éclat d'obus. Donc la blessure était très grave, même s'il avait été sur une table d'opération à Paris. Et il voyait bien qu'il pouvait rien faire pour lui, si ce n'est l'abandonner, mais l'abandonner en plein soleil, il valait mieux mettre une balle à la tête. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée, ils l'ont mis dans un trou qu'il y avait dans la roche. Il est descendu à 2 mètres, et je me rappelle, il avait la peau très sombre, donc son blanc d'œil ressortait énormément. Et il me fixait parce que je le prenais en photo. Et j'ai vu ce regard descendre dans la nuit, là, dans ce trou. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quelque chose de claustrophobique, d'abandon, de presque de tombe égyptienne. Enfin, il y avait quelque chose de... tout un mélange de mon éducation qui se mélangeait avec la réalité, etc. Ça m'a suivi longtemps, cette image. Quand je fermais les yeux, je voyais son regard disparaître dans la nuit. Mais encore une fois, comme l'histoire de ce Vietnamien, notre rôle, c'est de rendre éternels ces moments et ces hommes qui ont souffert et combattu et, ou qui sont morts pour leur cause à laquelle ils croyaient. Et ça, c'est respectable, quel que soit... Enfin, sauf certains, on va dire. Là, je mets un petit bémol. Et mon rôle, c'est de raconter leur histoire le plus longtemps possible, que ce soit en radio comme là, que ce soit en texte. Je rêverais de faire une fiction. Sur les documentaires, quand je fais des conférences. C'est ça notre rôle, c'est d'inlassablement raconter l'histoire. Et c'est pour ça que ces gens nous accueillent bien. Parce qu'ils ont besoin qu'on raconte leur histoire, ils ont besoin que les gens connaissent leur cause. Et ça, c'est l'essence même de notre métier, quoi. En dehors, encore une fois, du plaisir de prendre des risques et de crapahuter au soleil, quoi.
Patrick Chauvel, la façon que vous avez de raconter la guerre est une façon distanciée, c'est normal, c'est votre métier, vous la connaissez très bien, vous avez même beaucoup d'humour. Depuis le début de ces entretiens, on rigole beaucoup ensemble, mais la réalité de la guerre est quand même une réalité très dure, très cruelle, assez horrible. Comment on s'habitue à ce genre d'images fantomatiques qui vous reviennent, ces images de mort qui sont le quotidien de la guerre?
Bah, d'abord, la guerre, c'est l'homme à son extrême, donc c'est l'homme qui est violent. La guerre lui donne l'opportunité de l'exprimer. Elle pousse les gens à bout. Mais il y a aussi des actes magnifiques. À la guerre, on voit des actes des sacrifices, des actes de générosité incroyables. Aussi. Alors, bien sûr qu'on voit l'horreur. Et on est là aussi pour dénoncer l'horreur. Enfin, dénoncer, c'est un mot, j'ai du mal avec ça. C'est-à-dire montrer l'horreur. Parce que comment on peut dénoncer l'horreur? Ça sert à rien. On peut dénoncer les salauds, il y en a plein, mais il y en a aussi dans le monde de la paix, hein. Sauf qu'ils sont planqués et qu'ils payent pas très cher leur saloperie. Donc, au moins à la guerre, ça va très vite. Je crois que quand on pense que ce qu'on fait sert à quelque chose, et c'est l'illusion que j'ai, on n'est pas traumatisé. Alors peut-être que si un jour j'arrête, ça sera comme un tsunami qui va me déborder, parce que c'est une fuite en avant peut-être. Mais je pense pas. J'ai des enfants, je les vois grandir, le petit dernier qui me galope partout. Ça aussi, c'est passionnant et dur, quelquefois.
Oui, vous dites que vous avez appris l'inquiétude à partir du moment où vous avez eu des enfants.
Ah oui, j'avais jamais été inquiet avant. Et d'un seul coup, je connaissais pas ce sentiment qui est compliqué parce que on ne maîtrise pas son inquiétude. Non, à la guerre, je suis aux aguets du danger, de me tromper, etc. Mais ça ne m'inquiète pas. Je suis pas inquiet. Je peux me faire quand un obus tombe trop près, avoir un oups, et pendant une fraction de seconde, un coup de chaud, quoi. Mais j'ai pas d'inquiétude, du tout.
Parfois, Patrick Chauvel, l'obus tombe trop près. Derrière moi, ici, dans votre bureau, il y a une photo de vous à terre au Cambodge. Cette photo a été prise par Al Rokoff, grand photographe américain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est votre première grosse blessure, je crois, là.
Ah oui, ça, c'est ma première grosse blessure, oui. Et en plus, c'est une blessure d'amour propre. C'est-à-dire qu'en fait, on était sur une tranchée au Cambodge en 74, à peu près à 11 km de Phnom Penh, justement pour les combats pour la reprise de la route numéro 1, de cette section de la route. Donc c'est une route importante. Et les Khmers Rouges resserraient les taux, c'est vers la fin, à 74, à avril. Et à un moment donné, l'officier, après un bombardement de l'autre côté d'une clairière d'à peu près 800 mètres à découvert, ils bombardent les Khmers Rouges et ils mettent baïonnette au canon. Je parle à l'officier qui est un jeune capitaine cambodgien mais qui parle un peu français. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? On fait un tournage sur Napoléon. Les baïonnettes, ça se fait plus, quoi. Et il m'explique qu'ils vont traverser la clairière et qu'en face, ce sont des très jeunes Khmers Rouges, d'après leur renseignement, qui vont pas se barrer. Et que ça va être du corps à corps dans les tranchées, au couteau. Et il me dit, je vous conseille d'aller avec la deuxième vague. Je n'aurais jamais dû dire ça. Rokoff, qui était un grand poète comme moi, ex-marine, il avait fait deux tours au Vietnam. Je lui dis, t'as déjà vu des photos de close combat, toi? Il me dit, non. Je dis, bon, on y va, alors. Et il me dit, oui. D'ailleurs, tu sais, Patrick, tu ferais mieux de pas y aller, parce que de toute façon, je ferai la meilleure photo que toi. Et donc, on fait un pari. Celui qui fait la meilleure photo, le perdant donne 100 dollars. Et donc, on monte à l'assaut, et à mi-chemin, il y a un barrage d'obus de mortier qui nous tombe dessus, le mortier de 82, et je fais partie des blessés. Lui, il tombe, et il fait la photo de l'explosion avec moi qui tombe. Il est légèrement blessé au front par un éclat, mais il a quand même le réflexe de faire la photo. Enfin, il en rate une, parce qu'il m'a dit, je t'ai vu en l'air. Il l'a au moment où je retombe, mais quand même, il a... Et après, il a la photo de moi transportée, où j'ai une hémorragie, je saigne de la bouche,
la du couverture nez. Du livre
rapporteur voilà. De guerre. Et là, j'ai un éclat qui me traverse le coude, dans le cou, la fémorale et le genou, et la cheville. Donc, je suis out. Et dans l'ambulance, parce que lui aussi, il saigne, il me dit, tu me dois 100 dollars. Je dis, bon, d'abord, je suis mort, donc tu me parles pas. Et ensuite, j'ai vu la photo, quoi. Non seulement j'ai pas la meilleure photo, mais en plus je suis sur la meilleure photo.
Et est-ce que, quand même, c'est pas rien, une blessure de cette envergure-là, sur un terrain de guerre, quand on se voit blessé à terre comme ça, est-ce qu'on n'a pas un petit moment où on se dit, oulala, je vais peut-être faire une petite pause, voire raccrocher les gants?
Je me rappelle que j'étais foudrage. J'ai essayé de me relever, hein, mais la cheville était pétée, quoi. L'opération était pas finie. Donc en fait, là, d'abord, en fait, ça fait assez mal quand même, hein. Ça, à la limite, ça passe, la douleur. Mais c'est surtout, j'étais fou de rage, quoi. Je voyais les types, l'assaut continuer. Et on m'embarquait comme une poupée. Je savais que c'était cuit pendant au moins 15 jours, quoi. Ça a duré un peu plus longtemps, d'ailleurs. J'ai fait la convalescence dans la propriété familiale en Bretagne, où Pierre, chez Norfer, se réfugiait. Hein. Et donc c'est une assez grosse propriété de famille. Donc il y a une forêt au bord de l'Odet, c'est à Combrit, s'appelle le village. Hein, c'est le pays bigoudin. Je me rappelle, je marchais avec mes béquilles dans la forêt avec Pierre, et d'un seul coup il disparaissait. Et j'avançais en le guettant, et il me lançait des pommes de pin dans la gueule, en me disant, putain, t'es vraiment pas aux aguets, quoi. Je pensais que t'étais plus aguerri que ça. Et il continuait, mais Pierre aimait bien me tester. Quand j'étais jeune et que j'habitais chez eux le week-end, il m'offrait des maquettes LR d'avions allemands. Je mettais en général un mois et demi à faire un Junker ou un Stuka ou un Messerschmitt. Et quand il était fini, je le montrais fièrement à Pierre, avec les autocollants, le camouflage. Il ouvrait la fenêtre du quatrième étage et il le lançait. Le truc se fracassait au sol, il me disait, ça fait un Bosch de moins, toi. Et on a détruit pratiquement toute l'aviation allemande en l'espace de 5 ans. Je suis un as méconnu avec le Norfer.
C'est une belle éducation quand même.
Voilà.
Pour en venir à cette idée de la mise en jeu de votre corps en tant que reporter, on a parlé de cette blessure au Cambodge. On va pas faire la liste de toutes vos blessures parce qu'elle est quand
même c'est pas assez, très intéressant. C'est comme si on demandait à un coureur automobile de raconter ses accidents de bagnole. Ça fait partie des incidents. Ça fait mal et on sait qu'on va rater le reportage. Quand j'ai été blessé à Panama,
en 89,
mal dans le ventre, ça c'est encore plus chiant, sans jeu de mots.
Là, vous vous dites quand même, Patrick Chauvel au Panama en 89, je vais mourir.
Quelques secondes après, mais au moment de l'impact, j'avais un enregistreur. On entend le... Et on m'entend faire « Merde, ça y est !» On m'a tellement dit « Tu vas te faire tuer si tu continues » que je dis « Ça y est, comme un con. » Et le « Merde », c'est parce que je sais que c'est fini pour moi, le reportage. pendant les quelques... Je connais pas encore la gravité de la blessure, parce que je viens d'être touché. Après, je comprends que c'est une blessure normalement mortelle. Donc, et c'est marrant, c'est un vrai calme. Ok, c'est cuit. Après, quand on sent que les 10 minutes où normalement on meurt d'une, parce qu'il y a l'aorte, et que effectivement on saigne beaucoup, mais c'est pas une artère principale, du coup on a peur de pas être récupéré à temps. On sait que le temps est plus long, mais pas trop long non plus. Donc là, à ce moment-là, l'angoisse fait partie de ce mélange avec la douleur, quoi. Je me rappelle, j'ai développé une haine féroce contre un moineau. J'étais en train de saigner comme un con sur le bitume. Ça a duré 4 heures quand même avant qu'il vienne me chercher. Et il y avait un espèce de petit moineau dodu à 10 mètres de moi. J'étais couché, qui était sur un mur et qui chantait. Et je savais que moi j'allais mourir sur le bitume et que lui il allait continuer à chanter. Et j'ai développé une espèce de férocité envers ce truc. Je faisais des grimaces, j'ai essayé de faire des choses avec la voix, mais j'avais plus de voix en fait. Ça c'est les Américains qui m'ont dit après, parce que j'avais l'impression de lever mon appareil photo en disant I'm down, venez me chercher. Et il me disait tu faisais pas un son.
Les Américains qui par ailleurs vous avaient tiré dessus.
Oui, ils font le full package. Oui, ils vous tirent et vous. Je leur avais raconté à l'hôpital en disant mon père a été blessé en 44. La 82e Airborne l'a évacué. Aujourd'hui, la 82e Airborne vous blessez et vous évacuez. Ça, vous avez progressé depuis. Ça les a pas fait rire. Ils ont essayé de dire que c'était les rebelles qui m'avaient tiré dessus, sauf que le médecin m'a offert la balle qui était dans mon verre à dents à l'hôpital, et c'était une balle de M16, c'était pas une balle de Kalachnikov.
Donc, authentifié, certifié.
Ouais, ouais, non, c'est ce qu'ils appellent Friendly Fire. D'ailleurs, Newsweek, pour qui je travaillais, avait fait un petit encadré. Et le titre, c'était Oups.
L'humour de guerre, encore une
ouais,
fois.
Oui, bah, parce que j'étais vivant. Ouais. Mais, ouais, ça a fait mal, celle-là. Bah, la blessure, c'est, non, ça donne, enfin, moi, ça me donne pas envie d'arrêter. Et regardez Laurent Van Der Sock, qui est un des meilleurs photographes français. On l'appelle Robocop, puisqu'il a tout le côté en fer, le bras, la jambe, enfin, etc. Il continue. Il continue parce qu'il est passionné par son métier, parce qu'il aime l'aventure. Mais il aime aussi Paris, les bars, les amis, ses enfants. Enfin, c'est un type extrême, qui roule vite en moto, qui a des voitures qui vont vite. Oui, les blessures l'ont ralenti, ils lui ont fait perdre du temps. Lui, il a morflé. Il a payé cher cette passion et cette envie, mais il est très sérieux quand il parle de ses photos.
Quand on frôle la mort comme ça, on peut la frôler soit en raison d'une blessure, mais aussi, je crois que vous vous êtes retrouvé face à un peloton d'exécution en 78 au Liban. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban, Patrick Chauvel, pour que vous fassiez arrêter, emprisonné, que vous tentiez même en prison de mettre fin à vos jours et que vous vous retrouviez devant ce peloton d'exécution?
Bah, c'est une grosse connerie de ma part, donc ça se reproduira pas. Les conneries, on peut les accumuler, mais pas les mêmes quand même. Parce que Schindorfer, à un moment donné, il voulait que j'arrête. Enfin, il me le disait pas comme ça. Mais son meilleur ami a disparu au Vietnam. Jean Perrault, qui était photographe, ancien résistant, qui avait été prisonnier des Allemands et qui s'était évadé, était le mentor de Pierre. Et Pierre était mon mentor. Mais ce type était photographe, comme moi. Donc quand je suis blessé, Pierre repensait à ça. À ma deuxième blessure, il m'avait mis un petit mot en disant « La prochaine, ce sera les couilles. Donc tu ferais mieux d'arrêter. » Donc dès qu'il faisait un tournage, il me prenait comme photographe de plateau, ce qui me bloquait pendant 3 mois.
C'était sa façon à lui de vous protéger.
Ça m'a fait rater des guerres, notamment la guerre du Golfe. J'étais sur le film Dien Bien Phu, on était 6 mois au Vietnam.
Vous étiez acteur.
Là, j'étais acteur en plus et photographe. Et on avait tourné le Crabe Tambour. Et à un moment donné, on tournait à Djibouti, on était logé par la Légion, la 13e des BLE. Et un soir, ben voilà, on a bu des coups avec les légionnaires et on a fait des paris. Et j'ai perdu. Et donc, ils m'ont rasé le crâne. Donc, le lendemain matin, non seulement j'avais la gueule de bois, mais il y avait Yul Brynner en face de moi. Et j'avais bronzé. Donc, toute la marque des cheveux était fuchsia. Ça m'allait super bien. Et comme j'avais beaucoup vomi, ils m'ont prêté une tenue camouflée. Et donc, on a continué le tournage, et à un moment donné, je pose à côté d'une mitrailleuse chauve avec des Ray-Ban, on sent le type ouvert, avec Jacques Perrin en officier torse nu à côté de moi, et une mitrailleuse à 52 et le décor. Et à Paris, en déconnant, j'avais tiré la photo en petit, de temps en temps, dans les bars, où les filles me disaient « Mais tu fais quoi dans la vie ?» Et je me sortais cette photo en disant « Je peux pas tout te dire. Je déconne. » Et j'avais été en Israël, j'avais un des types que j'avais connu en 67, qui était devenu colonel et avocat. Et il m'avait filé sa carte de visite, qui était écrite en hébreu d'un côté et en anglais de l'autre. Portefeuille. Je vais à Beyrouth et j'aime bien les Santiago. Et souvent, quand je traversais les carrefours sous les tirs, je me cassais la gueule. Parce que les Santiago, c'est une semelle en cuir. Il y avait des bouts de verre par terre, etc. Et on glisse assez facilement. Donc à un moment donné, les Kataeb m'ont dit « Patrick, t'es sympa, mais à chaque fois on croit que t'es touché. Donc on fait un tir de couverture. Écoute, ce qu'on va te proposer, c'est que on va t'offrir des Rangers. Tu seras moins grand, mais c'est pas grave. Ils sont équipés par l'armée israélienne. C'est les Rangers fauves des parachutistes. » Et je suis capturé pendant une opération au Liban, une opération géniale montée par les Kataeb. Donc on a été glorieux 3 minutes. Et ce sont la Saïka qui nous ont capturés, donc ils ont tué les combattants. Ma voiture a fait un tollo, je suis sorti en rampant. Et heureusement, ils ont vu mes appareils photos, donc là j'ai pris des coups de crosse et des baffes. Et j'ai été envoyé dans la vallée de la Beka, sur une base tenue par les Syriens, qui ont un sens de l'humour moyennement développé, qui ont trouvé la carte de visite en hébreu, les Rangers sur moi, mes traces de blessures, parce qu'ils m'ont foutu à poil, et la photo de moi, le crâne rasé en tenue camouflée.
Autant de preuves accablantes.
Et cinéma et Jack Perrin, je sais pas pourquoi, Jack Perrin, ça ne marche pas en série. Donc là, j'en ai beaucoup voulu à Pierre de pas avoir pris, je sais pas, Delon.
Depardieu.
Ou Depardieu, quoi. Et je l'ai dit à Jacques, je dis t'es nul, Perrin ils connaissent pas en Syrie quoi. Et donc j'ai pris des baffes, et j'étais un espion israélien, et donc en plus un bon espion puisque je parlais pas, puisque je ne savais rien. Et donc isolement sensoriel, des coups et à un moment donné exécution, fausse exécution, mais on le sait pas. Ils ont tué un type devant moi et ensuite ils l'ont viré, ils m'ont mis à sa place et roum, ils ont tiré mais au-dessus. Ça calme, hein. Mais c'est marrant, la réflexion que je me suis fait à ce moment-là, j'ai même pas d'enfant. C'est bizarre comme réflexion. J'avais l'impression que donc tout ce que je défends là n'était rien si on n'a pas d'enfant. Donc j'ai fait des enfants après.
C'était une bonne raison de faire des enfants.
Voilà, ben au moins laisser quelque chose. donc voilà, c'était... mais là, c'est chaud. Hein. J'avais du mal à... Il a fallu que je bloque mes genoux. Je sentais que ça bougeait quand même.
Pour pas vous effondrer.
Mais ils ont fait une connerie. C'est qu'ils ont amené d'abord le type qui lui hurlait de peur et s'accrochait à eux. Vomissait, hurlait, voulait pas se laisser mettre sur le poteau. Et ça m'a dégoûté. J'ai pas eu de compassion pour lui. C'est terrible, mais ça m'a dégoûté, ce comportement. Et du coup, je voulais pas faire ça. Et quand j'ai compris que c'était bidon, je suis rentré dans une rage, mais j'ai foncé sur l'officier et je l'ai mordu parce que j'avais les mains dans le dos. Et du coup, ils m'ont réassommé. Quoi.
Retour en cellule et vous avez pu être libéré dans la foulée.
À un moment donné, c'est le colonel Le Pellier, attaché militaire de l'ambassade de France, ils avaient réussi à me loger, c'est-à-dire à savoir où j'étais par les services français. Et mon père avait demandé au service de me faire sortir. Ils ont dit non, on l'a logé, c'est déjà important. Et ça fait 15 jours qu'il a disparu. Maintenant, si nous, on intervient, ils vont se dire, on a un gros poisson. Maintenant, faites marche arrière et passez par l'ambassade. Qui sait maintenant qui contacter, c'est-à-dire les Syriens. Et ils ont prouvé aux Syriens que j'étais journaliste et pas un glorieux combattant comme je faisais croire dans les boîtes à Paris avec ma photo idiote. Et donc il est venu me chercher. Alors, en fait, moi, ils m'ont libéré au ministère de la Défense libanais. Ils m'ont amené là dans le hall. Alors j'avais la cagoule toujours, depuis des semaines. Puis les toilettes, c'était mon pantalon. Hein. C'était isolement sensoriel, c'est une cellule qui fait d'ici à vous, hein, c'est tout. Il n'y a pas de meubles, il y a rien par terre, il y a un seau d'eau pour boire avec la cagoule et les mains dans l'eau. Je pensais qu'ils allaient m'exécuter encore. Bagnole, sortie de voiture, des bruits. Et puis d'un seul coup, froid, de l'air froid, et des gens qui parlaient, qui s'arrêtent de parler. Et plus personne ne me tient. Et on m'enlève les menottes, et j'enlève ma cagoule, et là j'ai une tronche. Et je suis dans le hall en marbre du ministère de la Défense avec des plantes vertes et une nana en tailleur qui me regarde effarée, et des gens qui traversaient dans le hall avec des dossiers qui s'arrêtent et me regardent. En fait, il y a des combattants qui m'ont posé, enlevé la cagoule et les menottes, et ciao. Donc, alors, ils ont assez vite compris qui j'étais, parce qu'au Liban, à ce moment-là, on parlait de ces journalistes disparus. J'ai été reçu par un colonel libanais qui savait pas très bien quoi faire de moi, qui a appelé l'ambassade. Et le colonel Le Pellier est venu chercher, ce qui était très dangereux pour lui, parce qu'il fallait aller de la Villa des Pins et monter à Yarzé, là-haut. En passant, il y avait les Palestiniens, les Palestiniens d'obédience syrienne à Saïka, le Parti populaire libanais, le Parti communiste machin, les chrétiens, les fous de Dieu, les barrages de tous les côtés. Et c'était l'époque des otages. Et il est venu avec une 404 et un assistant. Alors c'était marrant parce que, à part les cheveux gris de l'un et les cheveux de l'autre, c'était toi, épaule comme ça, hanche comme ça et la marque du képi, quoi. En civil. Tous les deux avaient le marque tout à fait incognito, les Dupont. Mais courageux, toi, ils sont venus et ils m'ont embarqué. J'étais assigné à l'ambassade le temps que on démêle tout ça parce qu'évidemment j'étais accusé d'avoir trafiqué des armes et d'avoir essayé d'amener une Kalachnikov à Paris à l'aéroport. Ce qui justifiait ma capture, un mystère. Donc après, j'étais devenu trafiquant d'armes maintenant. Et c'est marrant parce que l'ambassadeur m'a dit, Patrick, c'est marrant que tu sois là parce que d'abord, c'est emmerdant les mecs comme toi parce que ça nous donne du travail en plus, mais je suis content que tu sois vivant. Ce qui serait bien, c'est que tu prennes une douche, là. Et je t'ai connu à Londres où j'étais secrétaire d'ambassade, t'avais 5 ans, je t'ai connu, t'avais 5 ans, et je travaillais pour ton grand-père. Et il était ambassadeur à Beyrouth. Et donc voilà, j'ai pris une douche pendant une heure et demie, je pense, en buvant l'eau, et je pelais. Et ils m'ont filé l'uniforme du plus petit soldat français qui était là. Donc j'avais des ourlets partout. J'ai passé 3 jours délicieux à l'ambassade, avant d'être rapatrié en France, où Sigma, ils ont voulu me virer pour trafic d'armes. Et puis finalement, ça a continué. Ça n'a pas aidé à ma réputation de journaliste stable et distingué. Mais bon, ça a été une expérience, c'est chaud, quoi. Là, j'ai mis un petit peu de temps. Je dormais par terre, chez moi. J'arrivais plus à dormir sur du mou. Et dès que quelqu'un fermait une porte, je devenais fou. Il fallait que tout soit ouvert. Bon, enfin, ça a duré, deux mois.
Deux mois, et puis vous êtes reparti. Merci beaucoup, Patrick Chauvel. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Patrick Chauvel. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.